La première interrogation qu'on peut avoir, c'est de poser la question pourquoi tant d'échecs dans la construction du nombre? Bon, c'est une étude là qui est très connue, hein, qui a commencé en 1987 et dont les derniers résultats viennent d'être publiés il y a 6 mois peut-être, et qui montre qu'à une épreuve de calcul des opérations posées, apposées, variées, proposées en CM2, le score régresse depuis 1987, mais de manière faramineuse, hein, de manière extrêmement importante. Tout se passe comme si les élèves avaient appris à calculer plusieurs années de moins. Les meilleurs élèves aujourd'hui sont au niveau des moins bons en 1987. 1987, il faut bien voir ce qui se passait dans l'école française. Moi, j'étais déjà formateur, hein, professeur d'école normale. Je le suis depuis 1976. Les élèves qui étaient en CM2 à l'époque, quand ils étaient en maternelle, ils n'avaient aucun apprentissage numérique. Aucun. C'était l'époque piagétienne de l'école maternelle. C'est-à-dire qu'à l'école maternelle, on faisait des activités pré-numériques. Vous savez que Piaget nous disait que l'enfant, avant 6-7 ans, n'est pas conservant. Alors, conservant de quoi? C'est tout un débat. Mais il n'aurait pas eu le niveau de maturation intellectuelle, si vous voulez, nécessaire pour rentrer dans le nombre. Alors, bon, tout cet aspect des travaux piagétiens ne sont plus d'actualité, hein, aujourd'hui. On ne pense plus personne, pas un psychologue ne pense qu'il faudrait attendre que l'enfant soit rentré au CP pour commencer les apprentissages numériques. Hein. Pas un ne le pense. Pour autant, il ne faut pas rejeter dans sa globalité la théorie piagétienne, notamment la façon dont il envisage le nombre. Piaget met le nombre du côté des propriétés des actions. Hein. Il met le nombre du côté, bah, si j'ai une certaine quantité, si j'ajoute des unités et puis que je les retire même à l'autre bout, c'est la même quantité. Vous voyez, il s'est intéressé à des propriétés des actions, hein, de l'enfant. Et il définissait le nombre, hein, comme la construction d'invariants opératoires, hein, si vous voulez. Je peux faire, pour résoudre telle tâche, je peux faire comme ça, mais je peux aussi faire comme ça. Ça va conduire au même résultat. Et de ce côté-là, du côté de la définition de ce qu'est le nombre, il vaut bien mieux aller chercher du côté de l'œuvre de Piaget que du côté des psychologues états-uniens. Hein. Là, il y a vraiment une approche épistémologique du nombre beaucoup plus intéressante. Toujours est-il qu'à l'époque, ce sont les mauvais aspects de la théorie piagétienne que les enseignants retenaient, hein, c'est-à-dire l'aspect de la théorie du développement en stade, hein, qui n'a pas résisté aux recherches futures. Et il n'y avait plus d'activité numérique à l'école. Moi, j'allais dans les classes, hein, j'aime mieux vous dire que si un enseignant de grande section avait fait compter ses élèves, il se serait fait remonter les bretelles par l'inspecteur. Hein. C'était inimaginable, quoi. Hein, il dit, mais vous installez des mécanismes. Vous essayez de faire d'enfants qui ne sont pas conservants des petits singes savants. Mais il se trouve que ce sont ces élèves-là qui avaient commencé, c'était Hermelin, moi je faisais partie de l'équipe Hermelin, hein. Donc je peux en parler en connaissance de cause. Hein. Dans Hermelin, les premiers apprentissages numériques, ça y commençait en janvier au CP. Toute la période, le premier trimestre était encore consacré à des activités pré-numériques. On ne commençait à écrire, à produire des écritures chiffrées qu'en janvier au CP. Alors vous allez dire, mais les enseignants sur le terrain n'utilisaient pas Hermel. Non, ils utilisaient le Euler, maths et calcul. Première leçon sur les nombres dans le Euler, décembre au CP. C'était la leçon sur les nombres 1, 2 et 3. Décembre au CP. Ce sont ces élèves qui, en 87, superformaient ceux d'aujourd'hui de manière considérable. Vous voyez que ça ne peut conduire qu'à s'interroger. Hein ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, un des résultats les plus importants, c'est que la baisse s'effectue dans les mêmes proportions, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle des parents. Là, vous avez la courbe de la baisse chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures, c'est le vert, les triangles en vert, c'est la courbe du haut, hein. Vous avez là la catégorie de la baisse, la courbe de la baisse chez les enfants d'ouvriers. Bon, on sait bien, hein, les enfants de cadres supérieurs, d'enseignants, ont de meilleures performances scolaires que les enfants d'ouvriers, on le sait. Mais la baisse est exactement dans les mêmes proportions. Et ça... Alors, vous savez, quand on a un phénomène comme ça, bon, il y a une baisse... Comment l'expliquer ? Quand on cherche, moi j'ai écrit là-dessus, je vous donnerai des... Il y a des références bibliographiques dans mon PowerPoint, hein, notamment un article dans la revue Anae, hein, qui je pense que ça doit être intitulé « Une sorte d'épidémiologie de la baisse ». Vous savez, bon, trouver des causes quand il y a une épidémie, quand il y a un phénomène qui, d'un point de vue épidémiologique, est suspect, l'épidémiologie, c'est quelque chose de complexe en médecine, hein, de trouver, être sûr que la cause est celle-ci. Bon, moi, il y a une cause qui a tout de suite retenu mon attention, parce que c'est la raison pour laquelle j'avais quitté l'INRP. Hein, c'est la raison pour laquelle j'avais quitté l'INRP, c'est qu'à partir de 1986, on s'est mis à enseigner le comptage à rebours des recommandations de nos prédécesseurs dans le métier. On s'est mis à enseigner d'une façon qui est l'exact contraire de ce que préconisaient nos prédécesseurs dans le métier. Et ils argumentaient, nos prédécesseurs dans le métier. Hein, ils n'étaient pas sans argumenter. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'INRP à la fin des années 80, en leur disant, vous vous mettez à enseigner le comptage numérotage, je vais vous préciser ce que c'est, hein, le comptage numérotage, c'est-à-dire vous vous mettez à préconiser exactement le contraire. Hein, de ce qui était préconisé pendant des dizaines d'années, à l'époque où l'éducation nouvelle avait pignon sur rue dans l'éducation nationale, à la Libération, par exemple. Hein. Jamais l'éducation nouvelle, le GFEN, etc., n'ont été aussi influents qu'à la Libération, hein, au moment du plan Langevin-Wallon. Et donc, là, moi, à mon avis, vous prenez des risques. Bon, moi, quand je vois ça, évidemment, j'ai envie de dire, ce que j'anticipais se trouve plus ou moins vérifié, se trouve plus, même plutôt plus que moins vérifié. Donc, la cause est d'ordre pédagogique, Hein? Et c'est parce qu'on s'est mis à enseigner le comptage-numérotage à l'école de manière inconsidérée. Le fait que la baisse soit indépendante du milieu socioculturel va plutôt dans ce sens-là. Hein. Ça va plutôt dans ce sens-là. Par ailleurs, il y a une période, c'est 87-99. Alors, on peut pinailler sur des problèmes méthodologiques. Hein, sur, c'est pas au début les deux premières évaluations, 87-99, c'est le maître lui-même qui codait les réponses. Vous voyez, c'est lui qui les codait. Les deux dernières, c'est fait de manière informatique. Hein, lui rentre les résultats, c'est comme pour les évaluations récentes. Hein. Alors donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, mais vous en discutez avec les gens de l'ADEP, pour eux, il n'y a pas photo. Il y a un phénomène majeur qui s'est passé. Quant à l'explication, tout le monde est loin d'être d'accord. De la période 87-99... On cherche en vain des causes. Il n'y a pas de baisse pendant la même période en lecture. Bon, donc, un phénomène tel que le temps de sommeil, le temps passé devant les écrans, etc., peut pas expliquer. Vous voyez, un phénomène général. Un phénomène général, le temps de sommeil, il aurait des effets sur tous les apprentissages scolaires, pas spécifiquement sur les apprentissages numériques. Bon, donc, on n'en trouve pas. J'ai vraiment essayé on en trouve, moi j'en ai pas trouvé, et personne depuis m'a rien proposé. Michel Fayol, il a avancé l'idée, oui, mais les enfants ne font pas les courses aujourd'hui. Pour moi, c'est peu convaincant. Hein. C'est peu convaincant. Je me rappelle, dans les années 70, j'habitais à Argenteuil, la ZUP, hein, sur la dalle. Je peux vous assurer qu'il y avait un mammouth, il y avait déjà plus de petits épiciers, et que les mamans, elles n'envoyaient pas leurs enfants faire les courses au mammouth. Hein. Je vous assure qu'il ne faisait déjà pas les courses. Hein. Bon. Alors, l'effondrement des performances commence en même temps que l'enseignement du comptage-numérotage. Est-ce une simple corrélation ? Hein, oui, il faut se poser la question. Hein. Bon, alors, nous allons voir que les arguments en faveur d'un statut causal sont issus, et moi j'aime bien ça, hein, j'aime bien ça, de l'histoire des pratiques et des textes pédagogiques ou didactiques. Vous savez, bon, avant on ne parlait pas de didactique, mais parmi les anciens, il y avait quand même des textes, on va dire, à portée didactique, hein, pour le moins. Hein, on n'était pas simplement dans la pédagogie. La psychologie clinique et expérimentale, on pourrait même dire la neuropsychologie. Hein. Alors là, avec la psychologie expérimentale, c'est complexe, parce que en fait, quand vous connaissez bien, quand vous faites comme moi, essayez de lire toutes les recherches dans un domaine, vous apercevez que, nom d'une pipe, il y a des points de vue théoriques complètement différents qui sont soutenus, il y a des écoles différentes. Et alors aujourd'hui, on trouverait presque des gens qui soutiennent un point de vue et son contraire. Quoi, hein, et ils ne sélectionnent pas les mêmes recherches, ils ne mettent pas en avant les mêmes recherches. Enfin, c'est vraiment... faut faire attention. Quoi, hein. Mais on trouve des chercheurs en neuropsychologie qui vous affirment que le comptage ne joue guère de rôle dans le progrès des enfants. Ce que disait Piaget. Alors quand il parle du comptage, c'est le comptage numérotage. On verra que le comptage dénombrement, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Mais il faut préciser tout ce vocabulaire, évidemment. Hein. La psychologie interculturelle, la psychologie qui compare les performances des enfants sous les différentes latitudes, en Asie, où ils sont extrêmement performants, les écoliers, les enfants occidentaux. Hein. Alors comment, dès le début du CP, reconnaître un enfant qui va avoir des difficultés à rentrer dans le nombre ? Henri Canac, en 1945, grand pédagogue, hein, vice-directeur de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, grand pédagogue. Et puis à l'époque, ces grands intellectuels se préoccupaient de la formation des maîtres. Il parlait de ses élèves, il disait de ses élèves que c'était des élèves mal débutés. Ouais. Comment, dès le début du CP, reconnaître un élève mal débuté ? Hein ? Bon, alors, Il se trouve que, ce que je racontais dans l'atelier consacré au Noum, hein, pour mettre au point une solution multimédia que je présente donc dans un atelier, il y a 3 ans, j'étais tous les matins dans un CP. Hein. Je faisais classe dans 2 CP. Je faisais classe dans un CP avant la récréation, dans l'autre CP après la récréation. J'étais maître surnuméraire à mi-temps, hein, si vous voulez, et qui faisait classe uniquement en mathématiques. Donc, et malgré ça, j'avais dans chacune des 2 classes de CP 4-5 élèves qui, dans chacun des CP, n'avaient pas compris le nombre 5 à la Toussaint. Ils n'avaient pas encore compris le nombre 5. Alors quand je dis ça à une assemblée de 200 enseignants de maternelle ou même d'enseignants de CP, ils me regardent et puis je vois qu'ils sont complètement dubitatifs. Comment c'est possible ça? C'est pas possible, moi en grande section, tous mes élèves ont compris le nombre 5. Au CP, à Toussaint, évidemment que tous mes élèves ont compris le nombre 5. On n'utilise pas le même critère, hein, pour évaluer la compréhension du nombre 5. Le test que j'utilise, moi, alors c'est un petit test en entretien individuel. Vous savez, les élèves qui vont avoir du mal quand vous le savez, quand vous faites la classe, vous les repérez vite. Hein, c'est pas, on n'a pas besoin d'une armada évaluative très complexe. Hein. En revanche, il y a quelques petits tests, hein, et je vais vous en rapporter un, qui sont extrêmement significatifs. Ce test, c'est le suivant. Je demande à l'élève, il y a un tas de jetons en entretien individuel, je demande à l'élève, donne-moi 4 jetons. Voilà. Tous les élèves, y compris ceux qui ont du mal, savent le faire. Ils font 1, 2, 3, 4, et puis ils me disent, il y a 4. Hein, ils disent 4. Ils me donnent 4 jetons, mais on va voir la suite, à l'aide d'un comptage numérotage. Performant, mais un comptage numérotage. Là, je dis à l'élève, c'est bien, tu as bien su me donner 4 jetons. Mais finalement, j'ai réfléchi, c'est 5 jetons que je voudrais, 5. Et si je vois, j'observe attentivement l'enfant, si je le vois recompter des jetons dans le tas, recompter les 4 jetons qu'il avait déjà comptés, je mets les mains dessus, par exemple. Je mets les mains dessus, je dis. Mais je lui dis, t'as pas besoin de les recompter, ces jetons-là. C'est toi qui me les as donnés. Tu sais que là, sous mes mains, il y a 4 jetons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que maintenant, sous mes mains, il y ait 5 jetons? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Et ces 4-5 élèves, dans chacune des 2 classes, étaient incapables de prendre un nouveau jeton et de l'ajouter pour faire 5. En acte, en situation de résolution de problème, ils ne savaient pas que 5, c'est 4 et encore 1. Ils ne le savaient pas. Ils auraient su me donner 5 jetons, ils savaient me donner 5 jetons. Mais 5 jetons, pour eux, ce n'est rien de plus que 1, 2, 3, 4, 5, 5. 4, c'est 1, 2, 3, 4, 4. 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ils savent construire une quantité de 4 par comptage numérotage. Ils savent construire une quantité de 5 par comptage numérotage. Mais ils ne savent pas mettre en relation d'emblée une quantité de 4 et une quantité de 5. Ils ne savent pas que 5, c'est 4 et encore 1. Ou de moins, ce savoir n'est pas opérationnel en situation de résolution de problème. Cette propriété 5, c'est 4 et encore 1, c'est la propriété qu'on appelle l'itération de l'unité. L'itération de l'unité. Enfin, l'itération de l'unité, ce n'est pas cette propriété-là. Ça, quand un enfant réussit le petit test que je viens de vous décrire, ça nous dit que cet enfant maîtrise l'itération de l'unité jusqu'à 5. Quand il sait prendre un cinquième jeton, l'ajouter, hein, pour former une collection de 5. Et faites attention, on trouve des enfants qui réussiraient, si vous les interrogiez, sur le problème verbal. 4 plus 1, c'est combien 4 plus 1 ? Et là, ils ont compris que quand le maître les interroge sur plus 1, il faut aller regarder la file numérotée qui est dans la classe. Et puis plus 1, et 4 plus 1, il faut dire le numéro qui suit 4. Il regarde sur la file numérotée, 4, 5. 5. Mais en situation de résolution de problème, ils échouent. Ils échouent. Vous voyez, il y a les savoirs verbaux qu'on a montés, et puis les savoirs qui sont opérationnels en situation de résolution de problème, et ça ne coïncide pas nécessairement. Ce qu'on cherche, ce qu'on vise, ce sont des savoirs opérationnels. Hein ? Ce sont des savoirs opérationnels. Bon, l'itération de l'unité, 2 c'est 1 et encore 1, 3 c'est 2 et encore 1, 4 c'est 3 et encore 1, 5 c'est 4 et encore 1, 6 c'est 5 et etc. Hein ? C'est la propriété conceptuelle fondamentale du nombre. C'est celle qui fonde le nombre. C'est celle qui fait que le nombre n'est pas la quantité. On a deux mots différents, hein, dans la langue française. Quantité, nombre. Hein ? Il faut essayer de se mettre d'accord, hein, sur ce qu'est une quantité, ce qu'est le nombre. Sans itération de l'unité, c'est-à-dire sans être capable de mettre en relation des quantités qui se suivent, hein, l'une étant obtenue en ajoutant une unité à la précédente, sans l'itération de l'unité, il n'y a pas de nombre. Hein, il n'y a pas de nombre. Et ça, même quelqu'un comme Stanislas Dehaene serait assez d'accord avec ça. Bizarrement, il ne l'utilise pas. Hein, il ne l'utilise pas, mais il a co-signé avec une de ses étudiantes, qui est prof de psycho aujourd'hui à la Sorbonne, il a co-signé un article où il met la notion de quantité du point de vue du côté de la correspondance terme à terme. Ouais. Par usage de la correspondance terme à terme, on peut garder la mémoire d'une quantité. Mais garder la mémoire d'une quantité, ce n'est pas la même chose que d'accéder au nombre. Hein, nos prédécesseurs très lointains, dans les cavernes, quand ils quantifiaient le nombre de fois que le soleil s'était levé en traçant des traits sur la paroi d'une grotte, ils faisaient une correspondance terme à terme entre des événements et une représentation graphique, hein, construite progressivement. Là, il y avait de toute évidence un savoir-faire relatif à la quantité. Mais ce n'est pas un savoir-faire relatif au nombre. Le nombre, c'est évidemment bien plus que ça. Bien plus que ça. Donc, l'article auquel je pense, Stanislas Dehaene met la notion de quantité du point de vue de la correspondance terme à terme, hein, du côté de la correspondance terme à terme, et le nombre du côté de l'itération de l'unité. Hein, c'est-à-dire que même lui, alors qu'il s'exprime rarement comme ça, dans un article publié dans une revue importante, soutient ce point de vue. Hein. Alors, vous avez l'itération de l'unité et la propriété conceptuelle fondamentale du nombre. Oh, que vient de faire ce mot conceptuel ? Qu'est-ce que ça veut dire, conceptuel ? Conceptuel, ça veut dire, c'est une notion qui prend de plus en plus d'importance chez un grand nombre, on est tout, c'est toujours pas assez. Hein. Et il y a des gens qui n'utilisent jamais ce vocabulaire, jamais. Hein. Chez les psychologues, il y a des très connus, des grands. Hein. Les propriétés conceptuelles sont celles qui structurent un domaine de connaissance, sont celles qui, si vous voulez, relie les connaissances élémentaires entre elles. L'enfant qui a un défaut de connaissances conceptuelles, c'est typiquement l'enfant en difficulté en mathématiques. Il va avoir des îlots de connaissances. C'est l'enfant, vous voyez, il va avoir des... Oh, c'est pas qu'il sait pas faire des choses. Par la répétition, on arrive à ce qu'il sache donner une quantité de 4 jetons. Enfin, c'est pas compliqué, tu fais 1, 2, 3, 4, 4. Là, il y a 4 jetons. On arrive à ce qu'il sache donner une collection de 5 jetons. Enfin, c'est pas compliqué. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mais il ne relie pas entre elles ces deux connaissances élémentaires. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'une quantité de 5, c'est une quantité de 4 et encore 1. Vous voyez, le défaut de connaissances, les deux connaissances conceptuelles, c'est la commutativité de l'addition, de la soustraction, la réversibilité de l'addition et la soustraction, etc. etc. Et moi je construis des progressions comme ça, hein. Construire une progression, moi, si je devais qualifier la méthode des Noom, qui est mon dernier bébé, hein, je la définirais comme méthode conceptuelle. C'est-à-dire que constamment, je me dis, telle ou telle propriété conceptuelle, à quel moment je la travaille ? L'itération de l'unité, à quel moment c'est travaillé ? Et la réponse, c'est constamment. Hein, la réponse est constamment. C'est-à-dire que les propriétés conceptuelles, il faut constamment les mettre en avant. Hein. Voilà, propriétés conceptuelles, donc celles qui relient, qui structurent un domaine de connaissances, qui relient les connaissances élémentaires entre elles. Alors ça, bon, j'ai bataillé, hein, pour que les programmes, le programme notamment maternel, soit ce qu'il est. Et donc, dans le programme maternel, l'itération de l'unité est une notion centrale. C'est souvent l'expression n'est pas la meilleure possible. Bon, voilà, c'est comme ça. L'itération de l'unité, 3, c'est 2 et encore 1. Bon, c'est une très mauvaise définition de l'itération de l'unité. C'est pas 3, c'est 2 et encore 1, c'est 3, c'est 2 et encore 1, 4, c'est 3 et encore 1, etc. C'est une propriété plus générale que ça. Donc l'expression laisse à désirer. Mais vous voyez, des programmes, c'est un certain nombre de compromis, hein. Les enfants doivent comprendre que toute quantité s'obtient en ajoutant 1 à la quantité précédente, ou en enlevant 1 à la quantité supérieure, et que sa dénomination s'obtient en avançant de 1 dans la suite des noms de nombres ou dans l'écriture des chiffres. Là aussi, ça parle de l'itération de l'unité, de manière extrêmement complexe, de manière presque incompréhensible. Il ferait mieux de se référer au petit test que je vous ai décrit. Mais c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Programme de cycle 2. L'étude de relations internes au nombre, comprendre que le successeur d'un nombre entier, c'est ce nombre plus 1. Oh, un enfant, il ne pourrait pas comprendre ça. Vous voyez, c'est incompréhensible quand on n'a pas opérationnalisé ça, quand on n'a pas transformé ce genre de phrase en épreuve qui permet de savoir quand un enfant maîtrise l'itération de l'unité ou pas. C'est incompréhensible. Trois notions fondamentales pour penser ce que sont les nombres, hein. Une définition des nombres, hein, et le cheminement optimal pour les construire. La notion d'itération de l'unité, l'opposition entre comptage-numérotage versus comptage-dénombrement, et l'importance des stratégies de décomposition-recomposition. Programme 2015 pour le cycle 1 dit « Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-numérotage ». C'est dans le programme. Bon, donc, mieux vaut savoir ce qu'est un comptage-numérotage. Hein, il vaut mieux le savoir. Enseigner le comptage-numérotage, c'est ce qu'enseignent les parents. C'est ce qu'enseigne quiconque n'a pas réfléchi à la question. C'est l'enseignement du comptage selon le sens commun. C'est parce que nos prédécesseurs dans le métier avait longuement réfléchi à la question que l'école française avait réussit partiellement. En fait, c'est la réforme des maths modernes qui sort l'école française du comptage numérotage. Parce qu'elle sort l'école française du comptage. Il n'y a plus du tout de comptage. S'il n'y a plus de comptage du tout de comptage, il n'y a plus de comptage du tout. Donc il n'y a plus de comptage des nombrements, qui, à mon avis, est une bonne façon d'enseigner le comptage. Mais il n'y a plus de comptage numérotage non plus. Mieux vaut ne pas compter du tout, qu'un enfant ne sache pas compter du tout, plutôt que de l'enfermer dans le comptage numérotage. Moi, les 4-5 élèves dans chacun de mes deux CP, j'aurais préféré qu'ils n'aient rien appris à l'école, plutôt que d'être enfermés dans le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dans le comptage numérotage 1 à 1. J'ai passé l'année à les sortir de ça. Et comment je les ai sortis de ça ? En ne les laissant jamais s'installer dans ce type de stratégie. Je faisais une séance de calcul mental, je voyais un élève. Allez, je faisais 4 plus 3, je voyais un élève. Je disais, je vois que tu comptes. Je t'ai appris un autre moyen d'obtenir 4 plus 3. Je vais t'aider. Je lui montrais une boîte de pique-billes avec 4 jetons. Imagine que tu en ajoutes 3, qu'est-ce que tu vas faire ? Ou je lui montrais 4 de mes doigts. Imagine que tu lèves 3 doigts, qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, tu vas d'abord enlever un. T'as combien là ? 5. Combien qu'il faut encore que tu en ajoutes ? Faut que tu en ajoutes 3 en tout. T'en as déjà ajouté un. Combien il faut encore en ajouter ? 2. Allez, 5 et encore 2, c'est 7. Oui. J'aidais l'enfant à mettre en œuvre une stratégie de décomposition-recomposition. Je n'ai à aucun moment accepté que ces élèves s'installent dans cette stratégie de très bas niveau qu'est le comptage-numérotage. La collègue de CE1 m'a dit qu'ils étaient sortis, hein, qui a suivi ces élèves, m'a dit ça y est, ouais, ils sont sortis d'affaires, ils sont dans le nombre, ils sont dans le calcul. Ils sont dans le calcul. Donc un mot nombre, une unité, vous avez des lapins sur un carton là, combien y en a-t-il ? Il y en a un ! Regarde, je te montre comment on compte. Un, et on appuie sur le doigt de l'enfant. Et on prend le doigt de l'enfant, un, on appuie sur son doigt sans faire mal. Deux, c'est là, il faut que tu dises deux. Trois, quatre, on lui apprend à faire une correspondance terme à terme. Un mot, une unité. Un mot, une unité. 5, c'est là, 5. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un comptage numérotage. Un jeune enfant, quand on prononce un mot, en insistant, tu vois, le micro, c'est là. Tu vois, ça, c'est un micro. C'est là, le micro. Pour lui, le mot réfère à l'objet pointé. Si on lui dit 5, c'est là, 5. Hein? Le mot 5 réfère à l'objet pointé. C'est le 5. Hein? Quand un mot nombre réfère à un objet pointé, c'est un numéro, c'est Chanel numéro 5. Ça peut n'avoir rien de numérique. La plupart du temps, quand on utilise des numéros, c'est dans un contexte ordinal. Je vais à l'opéra, j'ai rang R, siège 24. Siège 24. Rang R, on aurait pu inverser, hein. Rang 24, siège R. Dans les deux cas, ce sont des numéros, hein, sont des numéros. Et je suis dans un contexte ordinal, c'est le RIM, siège, le 24e rang, hein, dans un contexte. Alors là, j'ai recommandation aux pédagogues, exprimez-vous correctement. N'utilisez jamais de numéros pour désigner des rangs. Dans notre langue, on a des mots qui servent à désigner les rangs. On les appelle les ordinaux. Le troisième, le quatrième, le huitième. Qui pourrait penser, quel pédagogue peut imaginer que ce ne serait pas en utilisant les mots qui, dans notre langue, sont spécifiquement dédiés à la désignation des rangs, qu'on favoriserait le mieux le progrès chez les enfants ? C'est une idée folle. Donc, utilisez les ordinaux quand vous êtes dans un contexte ordinal. Et utilisez les cardinaux quand vous êtes, les cardinaux, c'est, c'est quand les mots nombres désignent des quantités. Ce n'est pas le cas, là, c'est le 5. 5, c'est là, tu vois. 6, c'est là. Et puis 6, c'est aussi là. Ou ça, là, bah, ça désigne aussi une propriété de la totalité. Alors là, c'est un obstacle, c'est sûr. La polysémie du mot 6, c'est un obstacle. Mais qu'est-ce que je regrette d'avoir insisté sur cet obstacle ? Aujourd'hui, le nombre de conseillers pédagogiques, le nombre de formateurs qui n'appellent comptage-numérotage que des comptages-numérotages où l'enfant répète pas le dernier mot prononcé, où l'enfant ne sait pas que le dernier mot prononcé désigne la quantité. Mais moi, quand un enfant sait que le dernier mot prononcé désigne une quantité, ça reste un comptage-numérotage. S'il ne maîtrise pas l'itération de l'unité, ça reste un comptage-numérotage. Là, dernièrement, c'est un conseiller pédagogique de Grenoble là, qui a fait tout un petit texte qui a été repris par le Café Pédagogique. Il n'est pas terrible, ce texte. Il n'est pas terrible. On croit que le comptage numérotage, c'est quand l'enfant ne répète pas le dernier mot prononcé. Mais ce n'est pas là qu'est l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas là. Tous les enfants en difficulté avec lesquels j'ai travaillé, à terme, répètent le dernier mot prononcé. Vous avez déjà vu des enfants qui n'apprennent pas que 8, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ? Vous en avez déjà vu. Moi, j'ai travaillé avec des enfants IMC, j'ai travaillé avec des enfants qui ont... J'ai jamais vu. C'est pas là qu'est l'enjeu. L'enjeu, il est que quand un enfant rentre dans le comptage numérotage, il s'y enferme. Cette stratégie de bas niveau se fossilise chez lui. On n'arrive pas. Alors, en règle générale, il a appris à répéter le dernier mot après les autres, hein, tardivement. Il a appris tardivement. Mais il s'y enferme. Hein, c'est le problème, il est là. Hein. Enseigner le comptage des nombrements. Allez, c'est théâtraliser cette correspondance terme à terme. Moi, j'ai inventé le vocabulaire. La notion de comptage des nombrements, je l'ai exhibé d'une gangue d'écrits pédagogiques, notamment des écrits d'un pédagogue qui s'appelle René Brandicourt, un instituteur, directeur d'école d'application, maître d'application, conseiller pédagogique, mais aussi co-auteur avec l'inspectrice générale de l'époque, Jacqueline Bandet, et avec un des grands universitaires fondateurs des sciences de l'éducation en France, Gaston Mielaret. Hein, co-auteur d'un livre sur les premiers pas en calcul. Hein, et à l'époque, on disait « premiers pas en calcul ». Sous-entendu, entrer dans le calcul, c'est rentrer dans le nombre. Il n'y a pas de différence entre entrer dans le calcul et rentrer dans le nombre. Il n'y a pas de différence. Hein. L'itération de l'unité, c'est comprendre l'itération de l'unité, qu'est-ce que c'est ? C'est comprendre le calcul plus un répété sous-jacent au comptage. Quand vous comptez 1, 2... Vous avez ajouté 1, c'est comprendre le calcul plus 1 répété sous-jacent au comptage. Regardez ce que nous dit René Brandicourt. Je vous donne le contexte. Il s'imagine avec des assiettes, hein, il y a des assiettes, elles sont alignées devant lui. Elles sont alignées devant lui. Et pour les dénombrer, il va former une pile. Il va les prendre l'une après l'autre en formant une pile, pour former une pile. Regardez ce qu'il écrit. Excusez-moi. À ce sujet, nous signalons le danger qu'il y a dans le comptage à énoncer les nombres en prenant les objets un à un. Regardez comment il continue, René Brandicourt. C'est en posant la deuxième assiette sur la première, et lui s'exprime bien, hein, il parle d'un rang et il utilise les ordinaux. Hein. C'est en posant la deuxième assiette sur la première que je dis deux, non en la prenant en main. La deuxième n'est pas deux, elle est une. Je reprends ça. Vous avez des assiettes devant vous. Vous prenez une assiette, une. Très bien, vous la mettez dans la pile. Vous prenez une autre assiette. Vous avez l'assiette dans la main. Ne dites surtout pas deux. quand vous avez l'assiette dans la main. Si vous dites deux alors que vous êtes en train de montrer une assiette et une seule, à l'enfant, il va croire que c'est la deux. Il va donner le statut de numéro. Ne dites deux. C'est en posant, ne dites deux que quand vous avez posé la deuxième assiette. Et regardez les deux assiettes. Voilà, une. Deux, en regardant les deux assiettes. Le mot deux désigne les deux assiettes. Oh, excusez-moi. Pareil pour la suivante. Trois, en regardant les trois assiettes. Le mot trois désigne la quantité des trois assiettes. Ne dites quatre, etc. C'est en examinant la pile successivement constituée que j'énonce deux, trois, quatre, six. Moi, je suis allé plus loin que Brandicourt. Dans mes conférences depuis X années, je recommande de compter des nombrés en disant un et encore un, deux en regardant la pile des deux assiettes, et encore un, trois en regardant la pile des trois assiettes, et encore un, quatre, dès qu'il y a le signe plus, le mot plus, un, plus un, deux, plus un, 3, plus 1, 4, etc. Quand vous dites plus 1, vous allez forcément bien coordonner l'ensemble des gestes. Le seul fait de dire plus 1, vous analysez ça à la vidéo, hein, c'est très simple. Hein. Bon, moi, j'ai vu avec ravissement les vidéos mises en ligne par le centre, que ce soit l'appel, que ce soit le jeu des tours, hein, je crois, hein, ça fait un petit moment que je ne les ai pas regardées, parce qu'elles vont complètement là-dedans, quoi, dans cette voie-là. Hein. Et donc, comptage, dénombrement, oui, on peut continuer à compter à l'école, mais en enseignant le comptage, dénombrement. Alors, comme en plus, si vous voulez, on sait que l'itération de l'unité, sur les cinq premiers nombres, elle se construit dans l'ordre. Dans l'ordre. On n'a jamais vu un enfant comprendre que 5, c'est 4 et encore 1, qui ne comprendrait pas que 4, c'est 3 et encore 1. Et donc, à l'école maternelle, la progression, elle est très simple. Elle est très simple. Petite section de maternelle, vous travaillez d'abord les nombres 1 et 2, hein, parce que ça permet de faire une opposition. Hein. Ensuite, vous introduisez le nombre 3 comme 2 et encore 1, mais grâce au subitizing comme 1, 1 et encore 1, hein, parce que jusqu'à 3, ça marche. Hein. Ensuite, moyenne section, introduire le nombre 4 comme revoir les trois premiers nombres. Un enfant de moyenne section qui n'aurait pas compris les trois premiers nombres, la première urgence est évidemment de chercher à lui faire comprendre les trois premiers nombres. Introduire le nombre 4 comme 3 et encore 1. Hein, 4 comme 3 et encore 1. Le nombre 5 comme 4 et encore 1. Quand on a introduit 4 comme 3 et encore 1, on peut le concevoir aussi comme 2 et encore 2. Hein, évidemment. Et donc rentrer dans les décompositions, quoi, recompositions, qui sont des décompositions, recompositions, hein, quand on les décrit complètement. Vous avez 4 jetons, combien il y en a ? Combien il y en a ? Ah ben il y en a 3, subitizing, et puis encore 1. Vous voyez, vous avez décomposé la quantité en 3, 1 ici, vous recomposez 3 et encore 1, 4. Hein. L'usage de la littération de l'unité est une stratégie de décomposition, recomposition. Mais évidemment, plus on connaît de décomposition, recomposition, mieux c'est. Le comptage numérotage et le comptage dénombrement ne font pas le même usage des mononombres. Dans le comptage numérotage, les mononombres sont des numéros. Ils servent au contrôle de la correspondance terme à terme, un numéro, un objet. Dans le comptage dénombrement, les mononombres, tous les mononombres désignent des quantités. Il n'y a pas un seul mononombre qui ne désigne une quantité. On privilégie le cardinal. Vous voulez enseigner l'usage ordinal des mononombres ? Eh ben, allez-y, mais c'est quand les enfants connaissent l'usage cardinal qu'ils vont rentrer immédiatement. Et vous avez vu le peu de leçons dans les méthodes sur l'ordinal par rapport au cardinal, parce que c'est le cardinal qui fonde le nombre. Cardinal, vous savez ce que veut dire cardinal, les points cardinaux. Les points cardinaux, ils désignent les orientations sur lesquelles on va s'appuyer pour construire toutes les autres orientations. La signification cardinale des mots nombres est celle sur laquelle on va s'appuyer. Regardez l'encyclopédie de D'Alembert. Le développement qu'il y a sur les cardinaux et sur les ordinaux, c'est complètement cheap. Pratiquement rien. Dans un comptage numérotage, le calcul plus 1 répété sous-jacent à ce comptage est complètement implicite. On fait 1, 2, 3, 4, on ne sait pas qu'on est en train d'ajouter des unités, on est en train de les énumérer. Énumérer des unités à l'aide de l'itération de l'unité et énumérer des unités sans itération de l'unité, ce n'est pas la même tâche intellectuelle. Ce n'est pas du tout la même tâche intellectuelle. Une petite analyse cognitive des deux fonctionnements le montre facilement. En revanche, dans un comptage dénombrement, ce calcul est explicite. Compter dénombré, c'est compter en explicitant le calcul plus 1 répété sous-jacent au comptage, c'est-à-dire la propriété qu'on appelle l'itération de l'unité. On verbalise l'itération de l'unité. Pour bien comprendre tout ça, il ne faut pas s'exprimer comme s'exprime un grand nombre de mes collègues, hein, qui, par exemple, définissent cette situation de commande comme la situation fondamentale de construction du nombre comme mémoire de la quantité. Eh ben non. Cette situation, c'est une situation d'apprentissage du comptage numérotage pour garder la mémoire d'une quantité. Ça, oui, mais il n'y a pas de nombre là-dedans. Il n'y a pas de nombre. Je vous la décris rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Hein. Vous avez des pots de yaourt qui, en fait, sont des pots de peinture. À l'autre bout de la salle, vous avez des pinceaux. Il faut, en un voyage, aller chercher pareil de pinceaux que de pots de confiture. Finalement, le critère, il va être en acte. C'est-à-dire, il va falloir pouvoir faire une correspondance terme à terme entre les pinceaux et les pots de yaourt. C'est-à-dire, vous allez mettre les pinceaux dans les pots de yaourt. Il ne faut pas qu'il en reste dans la main. Il ne faut pas qu'il y ait de pot vide. Alors là, on a gagné. Si ces deux critères sont réunis, on a gagné. Mais vous sauriez faire ça en comptant numérotant avec, par exemple, les lettres de l'alphabet. Je vous ai dit tout à l'heure, comme numéro, dans la vie quotidienne, on utilise deux sortes de numéros. On utilise les chiffres, les écritures chiffrées, et puis aussi les lettres de l'alphabet, quand vous allez à l'opéra, grand R, etc. Mais je vous demanderai d'aller me chercher une quantité de R-chaise, vous sauriez le faire. Hein. R-chaise, qu'est-ce que c'est? Vous prenez des chaises. Hein, il y a des tas de chaises, vous prenez les chaises A, B, C, D, E, F, vous comptez numéroter les chaises, quand vous arrivez à R, hop, je m'arrête, vous ramenez les chaises et on serait tous d'accord pour qu'il y ait de R chaises. Hein, on serait tous d'accord, hein. Ça permettrait de communiquer concernant les quantités. Allez, j'y vais, je résous mon problème, je suis un enfant. Hein, ou... Alors, des pots de yaourt, combien y en a-t-il? Je vais compter numéroter avec les lettres de l'alphabet. Il y en a A, B, C, D, E, F, G. Je traverse, je retiens, G. Je le retiens dans la tête. Hein. Vous allez savoir pourquoi. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi c'est important. Traverser la salle. Hein, traverse la salle. L'enfant, vous arrivez devant les pinceaux. Vous y allez A, B, C, D, E, F, G. Et là, il faut s'arrêter quand vous entendez G. C'est pour ça qu'il est important de mémoriser G. Hein. Il faut s'arrêter. Hein. Vous ramenez les pinceaux, je peux vous assurer qu'il y aura correspondance terme à terme entre les pinceaux et les pots de yaourt. Pourquoi ? Parce qu'il y en a, il y a une collection intermédiaire entre les deux, c'est A, B, C, D, E, F, G. C'est une collection intermédiaire. Hein, c'est, y a, vous avez mis en correspondance avec la suite des lettres A, B, C, D, E, F, G, les pots de yaourt. Vous avez mis en correspondance avec la suite des lettres A, B, C, D, E, F, G, les pinceaux. Et donc, il y a correspondance terme à terme entre les deux termes extrêmes, c'est-à-dire les pots de yaourt et les pinceaux. Hein, il y a une correspondance terme à terme. Donc ça marche, vous avez réussi à garder la mémoire. Mais si je vous demande, hein, revenons, le comptage numérotage permet-il de garder la mémoire du nombre ? Une quantité R, on a vu ça, vous savez la former. La quantité R, c'est combien R ? C'est proche de 15, de 20 ? C'est quoi la différence avec 20 ? Vous n'en avez aucune idée. Sauf expérience de vie extrêmement particulière. Vous n'en avez aucune idée. Mais même je vais plus bas, prenons une quantité de H. Blanche-Neige, elle avait plus ou moins de H nains ? C'est une vraie question, hein, je vous la pose. Blanche-Neige, elle avait plus ou moins de H nains ? Ouais. Ouais, là, il y a des gens que je vois qui sont comme ça. On lèverait le coude, on verrait A, B, C, D, E, F, G, H. Pourquoi ça ? Parce que dès qu'on a compté numéroté, nous adultes, sur les doigts, on a accès aux décompositions de 5. Et on sait immédiatement que c'est 8. C'est 8. Bon, mais je vous ferai remarquer quand même. Hein, je vous ferai remarquer qu'un certain nombre d'entre vous avaient vu qu'il y avait 7 pots de yaourt. Hein ? Vous étiez quelques-uns à les avoir comptés. Hein ? 7, c'est G. Hein ? 7, c'est G. H, qu'est-ce que c'est H ? Ben, c'est G plus A. C'est G plus A. G plus 1. Quand je fais ça dans des conférences, je m'aperçois, mais il y a plus d'un auditeur sur deux qui n'a même pas l'itération de l'unité avec les lettres de l'alphabet. H suit G. H, ça suit G. G, c'est 7. Donc H, c'est G plus 1, c'est 8. Plus de la moitié de l'auditoire qui n'a même pas l'itération de l'unité avec les lettres de l'alphabet. Qu'est-ce qu'un élève en difficulté ? C'est très simple. C'est un élève, quand vous lui dites 8, il est exactement dans la même position que vous quand je vous ai interrogé sur H. 8, il sait ce que c'est. H, vous savez ce que c'est. A, B, C, D, E, F, G, H. 8, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il est obligé de compter numéroté depuis le début. Et il ne dispose d'aucune décomposition. Un élève performant en mathématiques, dans le numérique, quand il entend 8, quand il voit le chiffre 8, toutes les relations 8, c'est 7 et encore 1, itération de l'unité, c'est 5 plus 3, c'est 4 plus 4, c'est 10 moins 2. Toutes ces relations sont préactivées dans son cerveau. Dès qu'il voudra avoir accès à leur conscience, ce sera immédiat. Un élève en difficulté, rien n'est à préactiver dans son cerveau, si ce n'est le comptage numérotage depuis le début. C'est pour ça qu'il faut sortir les élèves de là. Et le moyen le plus simple de les sortir de là, c'est de ne pas les y ancrer. L'élève en difficulté a une représentation mentale des quantités qui ne repose sur aucune décomposition. Alors bon, j'ai pris ça, bien que c'est apocryphe, hein, que ce soit apocryphe. Hein. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, quoi. Parler du nombre alors qu'il n'y a que de la quantité. Vous voyez la situation de commande tout à l'heure. C'est une situation, bah oui, on va garder la mémoire d'une quantité, mais il n'y a pas de nombre. quand je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux faire 7 pour les pots de yaourt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pour les pinceaux, et je ne sais pas que 7, c'est 5 et encore 2. Même si je ne le sais pas, ça marche. Celui qui le sait, tant mieux pour lui. Celui qui le sait, tant mieux pour lui. Je dis simplement, ne proposez jamais cette situation à des élèves qui ne savent pas que 7, c'est 5 et encore 2, c'est 6 et encore 1. Il ne faut jamais proposer cette situation à des élèves qui n'ont pas construit le nombre 7. Hein ? C'est ce que... La notion de quantité naît de l'usage de la correspondance terme à terme. Le comptage numérotage, il y a une correspondance terme à terme. Numéro, unité à quantifier. Je dis bien là quantifier, parce qu'on va obtenir la quantité, on ne va pas obtenir le nombre. Je n'utilise dénombrement que quand on obtient le nombre. Utiliser le dénombrement quand on obtient le nombre, quantification quand on obtient la quantité. Alors quand je dis nombre, je confonds le nombre de et le nombre. Hein. Je les confonds. Bon, Stella Baruch, elle se trompe aussi. Ah ben oui, mais je suis désolé, hein, mais quand on essaye d'être précis, pour elle, 6 c'est un nombre, 6 assiettes c'est un nombre de. Vous êtes d'accord avec moi? Pour moi, 6 assiettes, je ne sais pas si c'est une quantité de 6 assiettes ou un nombre de 6 assiettes. J'en sais rien. Pour le savoir, je ferai le test. Tiens, donne-moi 5 assiettes. L'élève m'en donne 5. Puis, hop, finalement, j'ai bien réfléchi. C'est 6 assiettes que je voudrais. Et si l'élève ne sait pas rajouter une nouvelle assiette pour former une quantité de 6 assiettes, c'est une quantité de 6 assiettes, mais ce n'est pas le nombre de 6 assiettes. Pour moi, le nombre, c'est il y a l'itération de l'unité nécessairement. Or, Stella Baruch ne dit rien. Pour elle, c'est une distinction purement langagière. Derrière la distinction langagière, il y a la distinction conceptuelle, c'est-à-dire liée à la compréhension du nombre. Évidemment, c'est pas complètement simple tout ça. C'est un peu complexe. Mais 6 assiettes n'est un nombre d'assiettes que si l'élève réussit un petit test relatif à l'itération de l'unité jusqu'à 6. Sinon, l'enfant peut savoir construire une collection de 6 assiettes par comptage numérotage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et dans ce cas-là, je parlerai de la quantité de 6 assiettes mais pas du nombre de 6 assiettes. C'est clair la différence ? Ouais ? Bon. La notion de nombre naît de la notion de quantité, évidemment. Il faut avoir la notion de quantité pour accéder au nombre. Bon. Mais la notion de nombre naît de la comparaison de quantités différentes, de l'accès à leurs différences, et plus tard, même de l'accès à leurs rapports. Il y a une définition qui a été rapportée en français, une définition du nombre par Newton. Newton, il dit, attention, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la multitude, comme le pensait Euclide. Euclide, c'est un collectif, ce n'est pas le dernier des imbéciles. Il ne rassemblait pas rien que des imbéciles, Euclide. Hein ? Eh bien, Newton, derrière, dit, attention, le nombre n'est pas la multitude comme le pensait Euclide. Le nombre, c'est le rapport entre des quantités. C'est le rapport entre. Il aurait pu dire de manière plus générale, c'est la raison des quantités. Sachant qu'en mathématiques, il y a deux sortes de raisons. Il y a les raisons arithmétiques, c'est la différence. Vous voyez, comparer deux quantités selon leur raison arithmétique, c'est déterminer leur différence. Comparer deux quantités selon leur raison géométrique, c'est chercher leur rapport. Telle quantité est trois fois plus grande que telle autre. Vous voyez, on entre dans le nombre qu'avec le calcul des différences. Et ça, c'est piagétien. Puis, on se perfectionne dans la compréhension du nombre avec le calcul des rapports. Avec le calcul des rapports. Bon, en histoire des textes didactiques, je vous en ai proposé un autre. En 1962, les conseillers pédagogiques de Madame Herbinière-Lebert, en parlant du comptage-numérotage. L'enseignement du comptage-numérotage fait acquérir à force de répétition la liaison entre le nom des nombres, l'écriture du chiffre, la position de ce nombre dans la suite des autres. Ouais, là, ils sont conscients, nos prédécesseurs dans le métier, qu'on peut avoir l'illusion du progrès avec le comptage-numérotage. Mais regardez, Metz, cet enseignement du comptage-numérotage gêne la représentation du nombre, l'opération mentale. En un mot, cet enseignement empêche l'enfant de penser, de calculer. Vous vous rendez compte, un pédagogue qui dit « telle pratique pédagogique empêche les élèves de penser ». C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Tous les travaux sur la difficulté grave et persistante avec les nombres montrent, là c'est la psychologie clinique, montrent qu'il s'agit d'enfants enfermés dans des stratégies de comptage de bas niveau, quoi. Comptage sur comptage, numérotage. En psychologie expérimentale, regardez, Elisabeth Spelke, dans un article publié dans Language Learning and Development, dans cet article, les connaissances fondamentales, le langage et le nombre. Elle dit « Je rejette la thèse que le comptage serait central dans la jeunesse du nombre. Pour aller plus loin, un outil qui enferme souvent les élèves les plus fragiles dans l'usage du comptage, c'est la file numérotée. Il y a une alternative, c'est cet affichage. Cet affichage est évidemment... Il théâtralise l'itération de l'unité, cet affichage. » Vous voyez, mais ce n'est pas une suite de cases avec la suite des numéros. Là, je vois bien, moi, que 6, c'est 5 et encore 1. Ou que c'est 3 et encore 3. Je vois bien, là, des compositions. Les performances en calcul des élèves de la Chine, de Taïwan, mais sont catastrophiques, sont extraordinaires par rapport à celles des USA. Comptage verbal, USA, 28%. On est en fin de CP. On interroge les élèves sur les résultats d'addition élémentaire. Récupération en mémoire à long terme, c'est-à-dire donner directement le résultat, 29% aux USA, 86% en Chine. La différence, on n'a jamais ça en psychologie expérimentale. On est tout le temps en train de travailler sur des petites différences, des trucs. On dit « Ah, c'est significatif !» Mais il a fallu beaucoup de sujets... Hein, beaucoup de d'enfants, et puis des tests sensibles. Hein, c'est significatif. Là, il n'y a même pas besoin de faire un test statistique. C'est faramineux. L'usage du comptage, 28, 36, 64% des cas aux USA, 4% des cas en Chine de Taïwan. Comment expliquer ? Il y a plein de raisons. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Il y a le langage, il y en a plein. Mais il y a une raison. Les élèves états-uniens font ce qu'on leur a appris à faire. Vous n'avez pas un seul fichier états-unien. Pas un seul. Où il n'y ait une file numérotée. Pour 4 plus 3, la case 4 est repérée. Il y a 3 flèches qui franchissent les cases suivantes. On regarde... On flèche aussi là où on est arrivé. Et puis l'enfant apprend que 4, le numéro de la case de départ, plus 3, le nombre de fois où j'ai franchi les cases, égale le résultat de l'addition, c'est le numéro qui est écrit dans la case d'arrivée. Vous sauriez calculer R plus C. Vous avez une file numérotée au-dessus du tableau. C'est la suite des lettres de l'alphabet, hein. R... Vous le repérez dans la suite des lettres de l'alphabet. Plus C. Alors, je vous signale, R plus C, c'est une certaine quantité. Hein. R, c'est A, B, C, D, jusqu'à R. C, ça va. Hein. Ça, on est à l'aise. On est à l'aise. Hein. R plus C, vous êtes là, R, c'est là. Bon, à droite, une fois en dessous, R, S, T, U. R plus C égale U. Mais c'est combien le nombre R ? Je sais pas. C'est combien le nombre U ? Je sais pas. Mais j'ai quand même la bonne réponse. C'est ce que nous disaient les conseillers pédagogiques de Madame Herbinière-Lebert. On a l'impression d'un progrès, mais plutôt que d'aider les élèves à la progresser, vous les enfermez. Vous les vous les enfermez dans l'usage de stratégies de bas niveau qui, chez les élèves fragiles, vont se fossiliser. Ils n'entreront jamais dans le nombre. Jamais. C'est ce que nous disent les travaux de psychologie clinique. Bon, j'ai une bibliographie. J'aimerais terminer un outil multimédia. Je vais vous le présenter très rapidement. Très rapidement. C'est une appli qu'on met sur le disque dur de son ordinateur et qu'on met aussi sur la tablette des élèves s'ils ont des tablettes. Mais il y a de plus en plus d'enseignants qui l'utilisent sans tablette. Ça c'est Madame Suissy, c'est l'enseignante. Oh ben oui, mais alors tout à l'heure, pour les besoins, j'ai ouvert. Oh, normalement, il n'y a que le chapitre 1 d'ouvert. Les chapitres s'ouvrent au fur et à mesure. C'est gamifié. J'ai été contacté par We Want to Know, qui est une société spécialiste dans le jeu éducatif, dans le jeu numérique éducatif. Le chapitre 10, le projet de l'année, c'est de battre un monstre nordique qui s'appelle Osgard. Pour gagner contre Osgard, il faut être bon en calcul et en résolution de problèmes, dans les deux. Faut être bon dans les deux. Chapitre 1, on y va. Là, je sors du mode prof, parce que les élèves, ils voient ça, en fait. Je sors du mode prof. Chapitre 1, il y a un fichier qui accompagne et qui est donné avec. Pour l'instant, tout est gratuit. L'enfant doit taper le code qu'il y a dans son fichier. Le premier code, la première séquence, c'est banane, banane, banane. 1, 1, 1. La deuxième séquence, c'est banane, banane, ballon. Et puis, on y va. Et puis là, on a deux sortes d'applications. On a ce qu'on appelle un laboratoire. Un laboratoire, on appelle ça en anglais aussi un bac à sable. Sandbox. On va faire ses expériences. On va essayer des choses. On va découvrir un univers. Et puis ça, c'est plus une sorte de quiz, mais pas un quiz t'as bon, t'as pas bon. Un quiz où il y a toujours un feedback. Quand on connaît l'importance du feedback, on insiste sur la présence de feedback dans les applications. Allez, explorons le bac à sable parce que on va explorer. On a des nooms. Ça s'appelle le noom 1. Ça, c'est le noom 2. Alors, ça rappelle quelque chose. Ça, c'est le noom 3. Pour ceux qui connaissent, ça rappelle les nombres en couleur ou encore les réglettes Cuisenaire. Ça, c'est le noom 4. Ça, c'est le noom 5. Alors, Cuisenaire, il abordait les nombres progressivement. Vers 1955, on croyait que le matériel Cuisenaire deviendrait aussi indispensable que la craie. Alors, bon, il se trouve que la craie, on ne l'utilise plus beaucoup. Mais le matériel Cuisenaire non plus. Mais il avait des propriétés absolument extraordinaires. Je vais essayer de vous les donner. Alors, d'abord, vous voyez que, évidemment, le noom 2, il est grand comme 1 plus 1. Le noom 3, pourquoi on l'appelle le noom 3 ? Sortons-le. C'était un matériel en bois ou en plastique, toujours utilisé sur toute la planète. Toujours très, très utilisé, ça. Il est grand comme 3 unités. Le noom 1, il s'appelle unité aussi. Il est grand comme 3 unités. Bon, ça a été reproché à Cuisenaire. Matériel qui a beaucoup de qualités. Première qualité, on ne voit pas les unités. Je ne les vois pas, les 3. Et comme je ne les vois pas, je ne vais pas les compter numérotés. C'est pas comme quand j'ai des cubes. 1, 2, 3. 1, 2, combien il y en a en tout ? 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas les compter numérotés. Je ne les vois pas. Et donc, je vais construire les relations entre les quantités. C'est-à-dire, je vais construire le nombre. Le matériel Cuisenaire est un matériel exceptionnel pour construire le nombre. Mais il a des défauts. Là, je dis, ça, c'est le noom 3. Non ! Je devrais dire, c'est le noom de longueur 3. Ce n'est pas le noom 3. il a la longueur 3. Quand je mets 3 unités à côté, 3 cubes unités à côté, ça coïncide. Il y a un abus de langage. Nous, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Et ce que je disais tout à l'heure, le jour où j'ai inventé ce truc, j'étais vraiment content. Parce que nous, le Noom 3, il est vraiment le Noom 3. Regardez. Quand je le mets dans le scanner, regardez. C'est le Noom 3 parce qu'il a 3 unités dans son corps. Ce qu'on va travailler avec les élèves, c'est la représentation mentale. 3, voyez, tu vois le Noom 3. Imagine les 3 unités dedans. Tu vois le Noom 2. Imagine les 2 unités dedans. Quel est le Noom long comme 3 plus 2 ? C'est 5. C'est 5. Vous voyez, le scanner va fonctionner comme une métaphore de notre cerveau, du cerveau de l'enfant. Il y a ce que tu vois, le Noom 3. Il y a ce que tu dois te représenter dans ton cerveau. Les 3 unités qu'il a dans le corps. Mais 3, évidemment, on peut le voir aussi que c'est formé de 3 unités si je le décompose. 3, évidemment, vous voyez, je peux décomposer n'importe quel Noom en unités. Je peux recomposer. 3 plus 2, c'est 5 parce que ça a pour longueur 5. Mais 3 plus 2, c'est 5 aussi parce que si le Noom 3 mange le Noom 2, j'en ai 5 unités dans le corps. Alors ça, je peux le faire évidemment en dehors quand je ne vois pas les unités, mais je peux le faire quand je vois les unités dans le scanner. Quand le Noom 3 mange le Noom 2, ça me donne le Noom 5. Alors évidemment, on fait des anticipations, hein. Le Noom 3 va manger le Noom 2 va manger le Noom 3. Non, c'est le contraire. Le Noom 2 va manger le Noom 3. Et qu'est-ce que je vais obtenir ? Vous voyez, il n'y a pas une seule séance sans anticipation. Pas une seule. Pas une seule. On a évidemment, alors ça s'inspire de Kuisner, de plus, si vous voulez. Reproche fait à Kuisner, il fallait mémoriser les codes de couleur. Il fallait mémoriser les codes de couleur. Et notamment, avec les premiers Noom, il n'y avait pas de problème, parce que ça, on voit que c'est le Noom 2. Ça, on voit que c'est pas le Noom 3. Enfin bon, il n'y a pas de problème avec les premiers. Dès qu'ils deviennent plus grands, distinguer le Noom 8 et le Noom 9, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais le Noom 6... Regardez ce qui est sa particularité. 6, c'est 5 plus 1. Ah, il a un œil. Le Noom 7. 7, c'est 5 plus 2. Regardez le Noom 7. Ah, il a 2 yeux. Les grands Nooms, on les reconnaît immédiatement. Parce que le grand Noom qui a un œil, c'est 5 plus 1. Le grand Noom qui a 2 yeux, c'est 5 plus 2. Le grand Noom qui a 3 yeux, c'est 5 plus 3, 5 plus 4. Et donc, le système des yeux aide à créer le repère 5 et aide dans le même temps à reconnaître les Nooms. Autre situation d'anticipation, évidemment, on retrouve Pigby. Hein. Évidemment, on retrouve Pigby. Ça, c'est une boîte de Pigby. Hein. Ça, c'est une boîte de Pigby. Hein. Je mets le Noom 3 dans la boîte. Regardez ce qui se passe. Il a 3 Nooms dans le corps, le Noom 3. On le sait, hein. Regardez. Ah, quand il rentre dans une boîte, il fait apparaître tous les Nooms qu'il a dans le corps. Il fait apparaître tous les Nooms qu'il a dans le corps. Situation d'anticipation. Allez, je vais mettre le Noom 6 dans la boîte. Jusqu'où sera-t-elle remplie ? Pourquoi ? Et on débat dans la classe. Ça va être rempli jusque-là, pourquoi ? Parce que 6, c'est 5 plus 1, et on sait que dans la boîte, là, le repère rouge, c'est le repère 5, va être rempli jusque-là. On va le vérifier, et on fait une bataille contre Osgard. C'est-à-dire qu'on trace un trait au tableau, à gauche CPA, à droite Osgard. Quand les élèves font trop d'erreurs, il n'y a pas assez de mains qui se lèvent. Oh, attention, je vais donner un point à Osgard. Les élèves, je vous rassure tout de suite, ils ont toujours gagné, hein, au bout du compte. Mais bon, c'est on est un engagement incroyable. Bluffé. J'en suis sorti de cette expérience complètement bluffé. Et à chaque fois que je vais dans... Il y a aujourd'hui une centaine de classes qui l'utilisent. Chaque fois que je vais dans une de ces classes, j'en ressors totalement bluffé. Allez, donc vous m'avez dit, ça va être rempli jusque-là. Allez, viens mettre ton doigt. L'élève met son doigt au tableau. On y va. Allez, on met un point au CPA. Et puis, je vois des élèves qui s'applaudissent. Ils s'applaudissent d'avoir fait les bonnes anticipations. Et là, je pourrais presque dire aussi, quand je vois qu'on met en avant le cadre théorique, manipuler, parler. Oh, moi, je suis pour tout ça. Manipuler, parler et abstraire. Alors là, j'ai un problème. Là, j'ai un gros problème. Pourquoi j'ai un gros problème ? Parce que abstraire, d'abord, il vaudrait mieux dire conceptualiser. Ça serait bien préférable. Bien préférable, parce que l'enjeu de l'éducation arithmétique, elle est dans l'appropriation des propriétés conceptuelles des nombres et des opérations, et dans la résolution de problèmes arithmétiques. Conceptualiser. Et puis, j'ai envie de dire, mais comment on conceptualise ? Comment on abstrait ? L'expérience commune d'un pédagogue, c'est il y a du matériel, l'enfant y arrive, on retire le matériel, il échoue. Et donc, quels sont les concepts clés qu'il faut mettre en avant ? Celui de représentation mentale, celui de modélisation. Quand vous avez des représentations, si vous voulez modéliser les actions sur les quantités, pour construire les propriétés conceptuelles sur les quantités, vous avez un certain nombre d'actions sur les représentations qui sont autorisées. Quand je fais 4 plus 2 avec les NUM, je n'ai pas le temps de vous montrer le logiciel de résolution de problèmes, mais y a un logiciel, le 4, quand je le mets sous le scanner, derrière je vois des pommes vertes. Je vois des pommes vertes, parce que je suis en train de résoudre dans un panier, il y a 4 pommes vertes et 2 pommes rouges. Et donc, j'ai un tuyau qui me permet de sortir le NUM 4, mais si je mets ce NUM 4 derrière le scanner, c'est des pommes vertes. Là, c'est des pommes rouges. Je dis à l'enfant, imagine les pommes. Imagine les pommes. Je rassemble ces pommes dans le panier. Combien y aura-t-il de pommes dans le panier ? Ah, si le NUM 4 mange le NUM 2, ça va faire 4 plus 2, 6. En manipulant les représentations, en agissant sur les représentations, j'anticipe le résultat d'action qui serait mené dans la réalité. C'est ça, faire des maths. C'est ça, faire des mathématiques. Allez, je mêle les 4 pommes vertes et les 2 pommes rouges ensemble. Il y en aura 6 pommes dans les... Et derrière le scanner, j'ai la possibilité de voir toutes les pommes rassemblées. Puis moi, bon, j'ai plein de possibilités. Hein. J'ai plein de possibilités. C'est... Je peux encore vous montrer 6 plus... 3, 6 plus 3. Allez, dites-moi combien ça fait, 6 plus 3. Ah, la boîte sera remplie jusque-là, on le fait. Et puis après, on anticipe la même chose sur une boîte vide ou sur une boîte masquée. 9 plus 4. 9 plus 4. Je vais mettre 4 dans une boîte dans laquelle... Dis-moi ce qui va se passer. Et dès qu'ils ont un peu... explorer l'environnement, ils savent. Eh bien, il y a le noumain, il va aller dans la boîte, hein, ça fera 10, et il y a une autre boîte qui va se positionner à côté, et le noum restant, alors attends, le noumain va aller dans la boîte, après c'est 3, et il y aura 3 dans la boîte suivante. pour enseigner le passage de la dizaine, c'est le... Ah bon, ben, donc ça fera combien ? 10 plus 3, 13. Allez, on a fait une anticipation, on la valide. 3, 10, c'est aussi ce qu'on appelle une dizaine. 10, c'est une dizaine. Et là, vous retrouvez quelque chose proche de l'affichage Montessori. Hein. Bon, voilà. Bon, je l'aime, j'ai essayé d'y mettre tout ce que j'ai appris en 40 ans de carrière. Hein, j'ai essayé d'y mettre tout ce que j'ai appris en 40 ans de carrière. Je suis certain que ça se diffusera très rapidement à l'étranger. Ça a déjà commencé. En France, ça dépend de gens comme vous.